sont en danger. Je ne sais pas, moi. Tov. Alors, les amis, Tov et Koulam. Et on revient dans notre étude du livre de Shemot. Et on se rapproche dangereusement, ou pas dangereusement, de la fin. Attends, deux secondes. J'allais dire, on se rapproche de la fin de la paracha de Kitisa. Il en reste encore deux, calmons-nous. Bezra Tachem.
C'est toi qui l'as.
Amen.
C'est enregistré.
Alors, on est arrivé.
La mettre la base. Faut pas dire la page, faut dire le passé.
Oui, la mettre d'alerte. T'es sûr, la mettre d'alerte?
La mettre
d'alerte, c'est ça. D'accord. Ok. Besséder. Besséder. Donc, on est dans le livre de Shemot, chapitre Lamed Dalet 34, verset Yutret 18. C'est-à-dire, donc on est, en fait, on s'est arrêté là la semaine dernière parce qu'on n'aurait pas eu le temps de développer, mais en fait, le verset 18, 19, 20, 21, 22, 23, alors, toutes ces versets-là, jusqu'au verset 26, en fait, font partie d'un seul et même ensemble. Ok, c'est juste qu'on est arrivé à la fin du Zman la semaine dernière, mais n'oubliez pas qu'en fait, tous ces versets qui commencent d'ailleurs avec le verset Yud, c'est une seule et même chose. Donc, je vais simplement relire le verset à partir de Yud. On ne va pas réexpliquer tout, on a déjà expliqué, mais histoire que ça nous soit remis dans la tête. C'est une série de choses que Dieu nous dit de faire ou de ne pas faire pour ne pas nous mélanger avec les goyim et ne pas ressembler aux idolâtres. D'accord ? Qui vient bien conclure l'histoire du veau d'or, évidemment. « Vayomer innet anochi koret berit neged kol ammecha eese niflot asher lo nivrou bechol haaret u bechol agoyim ve'ra'a kol ha'am asher ata bekirbo et ma'ase Hashem ki nora'u asher ani ose imach. » Donc, moi, je fais une alliance avec vous, très bien. Donc, vous, de votre côté, Shmor lecha et asher anochi mitzavecha, yom, inneni goresh mipanecha et haemori, akenaani, achiti, aperizi, vachivi, vaevusi. Et donc, puisque je renvoie les goyim de la terre d'Israël, alors, ishamer lecha pen tichot berit leyoshev haaretz. Ne fais pas d'alliance avec les habitants de la terre d'Israël, qui ne sont pas juifs, évidemment. Asherata ba elecha elea.
Ils ont déjà été chassés.
Nachon, tu poses une très bonne question. Tu poses la question du Radak. Il dit, si Dieu les a chassés, il n'y a plus personne avec qui faire l'alliance. Alors, ze ha'evdel ben sefer Yehoshua, le sefer Shoftim.
Le French, please.
Ah, j'ai autant pour moi. This is the difference between the book of Joshua and the book of the judge. C'est la différence entre le livre de Josué et le livre des juges. Dans le livre de Yoshua, on voit que Bémet, à Kadosh Baruch Hu, il chasse les peuples ennemis de devant nous. C'est-à-dire qu'on les bat tous et on gagne nos guerres et c'est génial. Bon, il y a eu un petit raté dans le premier combat de Haï, mais sinon, on a gagné tout comme il faut. Et donc, vraiment, à Kadosh Baruch Hu, il réalise ce qu'il a promis ici. Et tu arrives à la fin de Yoshua, tu te dis, ça y est, on a conquis toute la terre d'Israël. Et tu arrives dans le Sefer Shoftim, dans le livre de Shoftim, il y a des goyim partout. Et chaque tribu, elle a un mal avec les gens qui sont dans son territoire. Comment est-ce possible? Alors, dans le livre de Yoshua, on a Béhémet été, on a conquis la terre d'Israël, Bégadol. Et puis après, il y avait des poches de résistance un peu partout. Donc, effectivement, tu vas réussir à conquérir la terre d'Israël, parce que Dieu va enlever les goyim en tant que nation de devant toi. Mais après, il y aura encore des individus qui seront là-bas, les civils.
Surtout les plishtims, on ne prendra pas ici tellement.
Ah, mais les plishtims, ça n'a rien à voir.
Non, mais...
C'est vrai que dans le Sefer Shoftim, ils vont être souvent présents, mais les plishtims, c'est encore une autre histoire. Bichlal, à l'époque, ici, les plishtims ne sont pas encore là. C'est-à-dire, donc, c'est pour ça qu'il y a une différence entre, voilà, je vais tous les enlever, mais il y aura quand même des individualités après. Et donc, face à ces individus, Shamer lecha pen tichot berit leyoshev haaretz, asher ata ba elea, pen yele mokesh bekirbecha. si tu commences à faire des alliances avec les non-juifs qui sont en terre d'Israël, ils seront pour toi une épine. Eh oui, bien plus qu'une épine d'ailleurs. Qui et misbechotam titotsun ve et matzevotam teshabberun ve et asherav tichotun. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Ne pas laisser en place des monuments de Avodah Zara en terre d'Israël. Si c'est un monument qui était de la Avodah Zara, mais qui ne l'est plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Une église qui a cessé de servir. Bah, la règle est très simple à ce niveau-là. Tout ce qui a été désacralisé, Kol Beseder.
Une belle cafétéria.
Si c'est devenu une belle cafétéria, tu peux aller manger si c'est cachère, il n'y a pas de problème. Tu peux faire une synagogue dedans, tu peux faire un mariage dedans, tu peux faire ce que tu veux dedans.
Mais des fois, ça revient, par exemple, Santa Maria.
Ah ben, si ça revient, ben ça, c'est un problème. Ça a l'air mal. Donc, mais si c'est plus, c'est plus. Ok. Et donc, on ne reprend pas la question de, alors, qu'est-ce qu'on fait avec la Avodah Zara en Israël qu'on ne détruit pas aujourd'hui? On a dit, pas shoot, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, et mal à ça. Ok. Pourquoi est-ce que Dieu ne nous demande pas de détruire la Avodah Zara b'chol haolam, dans le monde entier? Bon, au-delà de la problématique technique.
Le problème grave, c'est qu'on a là, on n'aurait pas les capacités.
Voilà, alors je te dis, au-delà de la problématique technique, que si déjà on n'y arrive pas ici, tu veux qu'on y arrive jusqu'en Indonésie, ça va être compliqué. Bon, en Indonésie, il n'y a pas d'Avodah Zara, ils sont musulmans. Mais disons, ailleurs.
Si elles existent, c'est qu'il a voulu qu'elles soient là.
Ouais, mais ça ne marche pas, parce que si tu dis ça aussi pour Israël.
Non.
Bah, si elles existent, je peux dire le même argument que tu viens de dire. Tu dis, si elles existent, c'est que Dieu il a voulu qu'elles existent. Bah, tu dis, ok, alors l'Avodah Zara en Israël aussi. Tu comprends que ce n'est pas le bon argument. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire? Effectivement, nulle part, on voit que Dieu. Ils réprimandent les goyim parce qu'ils font de la Avodah Zara. À part quand ils sont en Israël. C'est-à-dire, la Avodah Zara fait par les goyim en Israël, Dieu n'est pas content. Mais la Avodah Zara des goyim en Chutz La'aretz, s'en fiche. Vous connaissez le livre de Yona. Bah, Yona, il est envoyé chez les goyim de Nineveh. Je vous rassure, à Nineveh, ils étaient Ovdei Avodah Zara, la Mehadrin. Pourtant, dans tout le livre de Yona, tu vois que Yona écrit sur Gezel, le meurtre, machin, en fait, le comportement des gens, il sait dire le David que c'est pas bien, mais à aucun moment il dit que c'est pas bien qu'il fasse l'idolâtrie. Lama. Eh bien, parce que semble-t-il que c'est normal que les goyim fassent l'idolâtrie. Bechutz la'aretz.
C'est Abraham qui avait donné le.
Quoi? Ouais, mais ça c'est en Extrême-Orient, c'est encore pas ça qui est devenu, c'est plus tard que c'est devenu idolâtrie. Mais de manière générale, Avodah Zara, Zézar, l'anou. Ce que dit le Rambam. C'est un service étranger pour nous, peut-être que pour eux,
c'est
pas d'ailleurs.
C'est comme nous, c'est pas notre boulot.
C'est pas que c'est pas notre boulot. Si, c'est notre boulot de leur expliquer, et Mouna Bahachem. Mais quelque part, tant que tu leur as pas expliqué, tu peux pas leur en vouloir. Qu'ils n'ont pas compris. Ah non, l'islam c'est pas ça, c'est pas l'idolâtrie.
Mais les lois de Noah, n'incluent pas l'Avodah
Zara. Tu as raison, tu poses une bonne question. Les lois de Noah, c'est. On a parlé de l'idolâtrie. Nachon. Aval, Mala Asod, la Gemara nous a déjà expliqué que Akadosh Baruch Hu, il tire la haine. Vas-y, il tire la haine. Hein?
Chitouf.
Non, au-delà du chitouf, tu parles des mitzvot de Noah. Que Akadosh Baruch Hu, il leur a enlevé l'obligation de faire Sheva Mitzvot Benoah. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils doivent pas le faire, mais que quand ils le font, ils n'ont plus Sachar Shel Metsuve Veose. Et là, Shel Lo Metsuve Veose. C'est-à-dire que, en fait, ça se rapproche, si tu veux, au concept juif de Tinok Shenishba Ben Agoim. Donc là, je dirais que c'est Tinok Shenishba Ben Atzmam. C'est-à-dire que tu leur as tellement pas expliqué. Et ils sont tellement loin du concept de bien noir que tu ne peux pas leur en vouloir. Ok? Donc tant qu'on ne leur a pas expliqué, elle malasse.
C'est un peu comme la cache-coute, tout le monde est soumis à certaines lois et eux non, ou pas?
Pas compris.
Nous, on n'a pas le droit de manger certaines choses.
Nous.
Et eux, ils ont le ça serait un peu pareil.
Non.
Bien,
non, non, deux secondes. D'abord, les verminachas, ils n'ont pas le droit non plus, mais...
Non, oui, d'accord, mais ils ont le droit de manger des langoustes, et nous, non.
Oui, non, mais je dis bien, mais, d'accord, mais ils ont aussi des lois de cache-route. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit non plus de manger des huîtres.
Ah bon? Ah oui, parce que c'est...
C'est vivant, non?
Ouais,
exactement. Voilà, tu me diras, quand tu les ouvres, elles meurent.
Non, mais je ne sais pas si... Je ne sais pas si les verminachas... Je ne sais pas si les verminachas, c'est tous les animaux. Ça parle trois ou fois, j'ai appris que... Le poisson, par exemple, il n'y a pas de verminachas.
Mais c'est pas un poisson.
Non, mais j'ai dit, c'est pas tous les animaux.
Tu dis à fortiori les huîtres.
Les huîtres qui sont invertébrés.
Top.
Peut-être.
Choliot. Non, je sais pas. Top. C'est chez la Tova, toi tu dis, de toute façon, quand tu mets le citron.
Ça les cuit.
Écoute, je ne suis pas un professionnel de
l'huître. Non, mais laissons les huîtres.
Mais laissons les huîtres de côté.
Voilà. Les langoustes.
Je vais te dire la vérité. Peut-être que c'est la preuve de ma...
Oui.
Non, mais attends. Peut-être que c'est la preuve de ma neshama très élevée. Mais même quand j'étais jeune et donc pas du tout religieux et qu'on ne mangeait pas cachère, ben je vais te dire, les fruits de mer, j'ai jamais réussi. Ça m'a toujours dégoûté.
Oui.
Dégoûté. Bon.
Et moi, c'est pas le sujet.
Mais c'est pas du tout le sujet. Le sujet était de savoir, est-ce que c'est la même façon que nous, on a des lois et eux, ils n'en ont pas. Alors, pour la Avodah Zarah, eux, ils sont permis, ils sont pas permis. Je dis, a priori, non, parce qu'ils ont aussi la loi de pas le droit de faire l'idolâtrie. Dans les Sheva Mitzvot de Noach, dans les sept lois de Noach, ils n'ont pas le droit non plus de faire l'idolâtrie. Mais je dis simplement qu'ils se sont tellement éloignés de ça qu'ils ne le savent même plus. Ou du moins, ils n'en sont pas tellement conscients, comme un juif qui n'a pas appris la Torah, il n'est pas tellement conscient de ce qu'il transgresse. Donc, tant qu'un Israël n'a pas enseigné Emouna Bahashem, le monothéisme, tu ne peux pas tellement leur en vouloir qu'ils se soient plantés.
Ben
évidemment.
Ça,
hein. Ben évidemment. Alors c'est quoi ton rôle? Ben, s'il y a un seul rôle du peuple juif, c'est de dévoiler Dieu au reste du monde. Ben, ça s'appelle quoi dévoiler Dieu? Leur enseigner le monothéisme. Je n'ai pas dit de leur enseigner le Chod Shabbat.
D'accord.
Ben, c'est pas ça que j'ai dit. Mais la connaissance et l'acceptation de Hachem Echad, c'est déjà pas mal. Okay, c'est pour ça que les musulmans, on n'a pas besoin de leur enseigner ça. Ça, c'est bon. Enfin, peut-être leur expliquer qu'ils ne sont pas obligés de massacrer tout sur leur passage. C'est un autre chikoul.
Ah oui, ils ne laissent pas passer le statut.
Ah oui, ils ne laissent pas passer. C'est-à-dire, nous.
Une petite question, il y a quand même un autre moyen de dévoiler Dieu, de dire oui, ouais. Que toutes ces planètes, les galaxies, les constellations, c'est Dieu qui les a créées. Il y a même un architecte.
C'est vrai?
Ouais.
Tu as raison.
Le problème, c'est un petit peu difficile de comprendre.
Non, il y en a plein qui le comprennent. Ouais. Ok, donc. Qui l'a tishtachavé le El Her? On avait expliqué qu'il ne s'agit pas ici d'une apologie du polythéisme, mais bel et bien de la Sitra Achara, du Tzad Acher d'Akadosh Baruch Hu. Je ne reviens pas à ce qu'on a dit la semaine dernière. Qui Hashem Kana Shemoel Kanaou, Pen Tichot Berit Leoshev Aret, Vezanou Achare Elohem, Vezavchou Le Elohem, Vekara Lecha, Vachalta Mizifro. Velakarta Mi Benotav Lebanecha, Vezanou Benotav Achare Elohem. Il ne faut pas se marier avec eux, avec leurs filles et leurs fils, parce que sinon après tu vas aussi aller faire leur culte. L'assimilation. Et qu'est-ce que tu vas faire au final? Tu vas non seulement te marier, et puis après tu vas avoir un sapin de Noël à côté de la Hanoukia. La version 2022 du Pasuk. Ok? Elohim Asecha Lota Aselach. Donc vous avez vu que toutes ces lois, ce sont les lois anti-Avodazara et anti-rapprochement Yoter Midai avec les Goyim. Et là on te dit, Etrag Amatzot Tishmor, Shivat Yamim, Tochal Matzot, Asher Tzivitichal Moed Chodesh Aviv, qui est Chodesh Aviv, Yatzatam Mitzrayim. On te rappelle qu'il faut faire Pesach et manger les Matzot. Parce que c'est en Nissan, c'est dans le mois du printemps que tu es sorti d'Égypte. Qu'est-ce que ça fait là?
Ben, on commence du début. C'est à partir de là qu'on va commencer à faire toutes les mises-là.
Ah bon?
Je pense que ça me semble. semble logique.
Excuse-moi, quand on est sorti d'Égypte, on a fait des mitzvot?
Non, mais bon, maintenant ça y est, on est sorti.
Donc c'est pas à partir de là qu'on est sorti pour faire des
mitzvot. Non, mais comment ça avec le parasite sur le dos, c'est pas ça l'idée de...
De quoi? L'idée de quoi? Va jusqu'au bout.
Il y a un lien avec la sortie d'Égypte et Pessah.
Non, il n'y a pas un lien avec la sortie d'Égypte, Pessah. Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Il n'y a pas un lien, c'est ça. Ma question, c'est pourquoi est-ce que ce verset, il est là? Jusque-là, on nous parle de, des versets qui nous séparent des Goïms. À partir de quand on a été séparés des Goïms? Sortie d'Égypte. Pas juste. Ok, c'est pas une question de on a reçu les mitzvot, on ne les a pas reçus à ce moment-là. Mais, on vient de te dire, tu dois te... Eh bien, comment ça commence? Yetiat Mitzrayim. D'accord? Kol peter rechem li. Ah. Mazel li. Tout le premier-né, c'est chez lui. Comment, qu'est-ce que ça veut dire techniquement quand Dieu il dit quelque chose est à moi?
Pour moi.
Nahon?
Non.
Bah si.
Oui, il pourrait être vraiment consacré.
Oui, et ça veut dire quoi consacré?
Les Kohen.
Quoi? Tous les premiers-nés, ils sont Kohen?
Bah non, c'était pas les,
ah.
Les...
Ça veut dire qu'effectivement, au niveau de toutes les mitzvot qui concernent les premiers-nés des animaux, c'est ce qu'on va devoir sacrifier. Ou alors, racheter. Ici, Rachid nous dit, on parle de Peter Rechem ba Adam. Et on te dit, le premier-né chez l'homme, on te dit, ou Peter Rechem li, te chol miknecha ti zachar Peter shor vase, ou Peter chamor tifde vase, vimlo tifde va rafto, et si tu le rachètes pas, tu vas le tuer, kol bechor banecha tifde. Et là, on te dit pas, et si tu le rachètes pas, tu vas le tuer. Donc, velo irao panay rekam, c'est-à-dire que, pourquoi est-ce que ça, encore une fois, j'ai compris, la sortie d'Égypte, c'était parce que c'est le moment où on fait la différence. Et pourquoi on parle des premiers-nés maintenant? Il y a eu plein de mitzvot qui ont fait suite à la sortie d'Égypte.
Les premiers-nés, ça rappelle...
Alors, les premiers, ça rappelle la sortie d'Égypte, effectivement. Mais alors, j'aurais dû avoir ce verset-là avant. Le verset de « Et tu es sorti » avec les matzot. C'est pas là, parce que là on l'apprend pour la deuxième fois. Ça sera au moment de la sortie d'Égypte qu'on nous dit pour la première fois. Alors c'est quoi cette histoire?
J'ai une question bête.
Oui.
En sortant d'Égypte, c'est là qu'on est devenu?
Non.
C'est quand on est devenu?
Bah, depuis que Dieu a choisi Abraham.
Mais des familles, on parle pas de l'économie.
Bah, je sais pas, Dieu il dit à Abraham, Vesra le Goy Gadol. Je ferai de toi un grand peuple. Bah, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai que quand on part en Égypte, bah, on est une famille. Il y a la famille de Yaakov et de ses enfants. Et on arrive à 70 personnes en Égypte. En 210 ans d'Égypte, bah, il se trouve que le début du livre de Shemot nous dit, dans les bouts, dans la bouche de Pharaon, « Yesh am bene Israël rav ve'atzum lumen ». Donc on est un peuple en Égypte considéré comme tel avant la sortie d'Égypte.
Voilà. C'est le nombre qui détermine le
nombre. Peut-être. Je ne peux pas te dire exactement qu'est-ce qui détermine, mais à ce moment-là, on a un peu. Maintenant, ici, on vient de nous dire, hein, puisque c'est comme ça, il y a eu une compétition en Égypte de savoir qui est le Bechor d'Akadosh Baruch Hu. Et a été vérifié que Béni, Bechori, Israël. Et donc ici, quand on nous parle de la séparation avec les Goïms, on vient de dire, ah, voilà, Bechor, Zéam Israël. Et à quoi il sert le Bechor dans chaque famille? À être responsable que les autres membres de la famille y soient connectés. Donc si Am Israël est censé être le Bechor de l'humanité, ben, il est là pour qu'on soit responsable que les autres aussi soient connectés. Les Bechorot vont devenir les Kohanim, c'est-à-dire que ce n'est pas les Bechorot qui vont devenir Kohanim, mais le rôle va être inscrit en Kohanim, et nous aussi, on va être appelé Mamlechet Kohanim. Donc on a ce rôle-là, vraiment, de devoir enseigner au monde la connexion à Dieu. Pour ça, tu peux pas être collé à eux. Tu dois prendre un recul, tu dois prendre de la distance parce que la façon dont eux, ils ont évolué est mauvaise. Il faut que tu gardes une spécificité pour leur apprendre, leur réapprendre comment s'attacher à Dieu. C'est ça ?
On fait pas comme le
dindon. Ah bah non, Rabbi Nachman n'avait pas encore écrit son histoire, donc Ed Malasot. Sheshet Yamim, Ta'avod, ou Bayom Hashevi, Tishbot. Donc on parle de quoi ici?
Shabbat.
Shabbat, Mazik Ashur. Becharish ou Bekatsir, Tishbot, Mazik Ashur. Pourquoi on parle de Shabbat là maintenant? Shabbat, c'est ce qui marque la séparation entre Am Israël et les nations dans le temps. C'est pas que ça nous garde en tant que juifs. T'as raison, que la Gemara nous dit que Yoter Me'asher à Yehudim Shamru et à Shabbat Shamar à la Yehudim. Plus que ce que les juifs ont gardé le Shabbat a gardé le peuple juif. Alors, t'as raison.
C'est
ce qui nous garde de l'assimilation. Donc c'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire qu'il y a une vraie différence. Mais aussi dans les faits. Le monde avance, toi tu t'arrêtes. C'est ce que écrivent les Romains. Les Romains, ils disent, Tacitus, l'historien romain, il dit des Juifs qu'ils ont trois choses quand même. On ne peut pas être avec eux. On ne peut pas être avec les Juifs. Parce qu'il y a trois choses qui sont vraiment bizarres. D'abord, ils se mutilent. Ensuite, dans leur temple, il n'y a pas de statue, n'importe quoi. Ils prient de l'air. Et troisièmement, ils sont vraiment des fainéants. Ils s'arrêtent un jour par semaine. C'est ça, nous. Donc Shabbat, c'est la séparation dans le temps. Vechagasham. Pardon. Becharish ou Bekatsir Tishbot. C'est quoi? Il faut s'arrêter quoi? Du travail agricole.
Le Shabbat.
C'est deux. Oui. C'est le même verset. Hein.
D'accord, c'est le même verset, mais il y a d'autres.
De quoi tu dois t'arrêter?
La moisson et la.
De du travail agricole. Tu dis à d'autres choses qu'on ne doit pas faire pendant le Shabbat. Oui, mais par rapport au goyim, qu'est-ce qui nous voit nous arrêter de faire? Aujourd'hui, tu dirais tu vas pas au bureau. Après, ce que tu fais à la maison, tu as des nérodes, que tu manges mieux, machin, ça... ils ne le voient pas, les goyims. On est toujours dans le prisme de ce qu'on fait différemment des goyims. Chag Shavuot.
On ne peut pas faire un petit télétravail.
Eh bien, c'est ça. Ils ne connaissaient pas à l'époque. Chag Shavuot ta'aseh lecha bikure ketzir chitim. C'est quoi ça?
Shavuot.
Bah, vas-y, Shavuot. À la fête de l'espace. Shavuot, c'est le moment où on a reçu la Torah.
Mais non, c'est pas écrit, qu'est-ce que tu racontes?
Quoi?
Vous êtes tout bas dans le verset qu'on a reçu la Torah.
C'est vrai. Hein. Oh là là, pourquoi j'invente des choses? D'abord, nous on sait.
Mais c'est ce que la gardienne te l'a dit?
Non. Là, au moment où Amisraël reçoit ce verset, que ce soit à ce moment-là ou 40 ans plus tard. Ils savent que ce qui va devenir Chag HaShavuot, dans les faits, ça a été aussi Matan Torah, enfin Mahamad Har Sinai. Ils le savent. Ils l'ont vécu. Donc c'est pas la Ganenette qui m'a dit. Mais effectivement, ici on va pas parler de Mahamad Har Sinai. Ici on va parler de Bikurim. Bikure Tzir Tzir Chitim. C'est quoi la notion des Bikurim?
Des prémices.
Des prémices. Qu'est-ce qu'elle a de particulière cette mitzvah?
C'est un peu comme un béchor.
Alors évidemment, c'est pas un peu comme. C'est le béchor des fruits, mais elle a quand même une particularité, cette mitzvah. C'est que c'est la plus longue de toutes les mitzvot. Puisqu'elle dure 7 mois dans l'année. Eh oui. On peut amener les bikurim depuis Shavuot jusqu'à Hanouka. C'est-à-dire ? Donc c'est la notion de permanence du lien avec Akadosh Baruch Hu. Et ça aussi, c'est la dimension différente que vient apporter Am Israël dans le monde. Parce que chez les goyim, tu es lié au Dieu le jour où tu vas te relier au Dieu. Demain, tu travailleras avec quelqu'un d'autre. Il n'y a pas cette constance du lien entre l'homme et le Créateur. V'chaga asif, tekufat ashana. Qu'est-ce que chaga asif? C'est pas marqué. Tu vois, moi aussi, je peux faire ça.
Non, mais...
Quoi? C'est pas marqué.
C'est pas marqué, même. Je dis pas que qu'il faut faire des...
Tu dis que c'est Soukhot, Bichal. C'est pas marqué que c'est Soukhot.
Hein?
Agave, entre parenthèses, je tiens juste à préciser une petite chose. Très souvent, on entend, pour la fête de Shavuot, de dire que c'est pas le nom de la fête dans la Torah. Qu'on l'appelle Chagabikurim, qu'on l'appelle Beshavuot Echem, mais que le nom de Shavuot, c'est pas marqué dans la Torah. V'chak Shavuot, t'as assez là.
C'est quand ça?
Quoi?
C'est quand? C'est cette semaine après...
Non, là c'est facile, non. Tu sais qu'il y a une fête qui s'appelle Chag HaBikurim, et là on te dit Chag Shavuot Ta'aselar Bikurei Ksichitim. Vous êtes Rachava. C'est-à-dire? Bon, simplement pour que vous sachiez que Shavuot, ça fait partie des noms vraiment de la fête dans la Torah.
Pourquoi on dit Ta'aselar, c'est pas juste Ta'aselar?
Ben, c'est pour toi.
Pourquoi un objet
de la rentrée,
tu fais...
T'as assez, Jérémy, tu fais ça.
Pour toi, ça veut dire...
Dieu, il nous dit, tu fais ça pour toi.
Pas pour lui.
Non. Okay. C'est pour nous aussi.
C'est que pour nous.
Je n'ai pas dit que c'est que pour nous, mais c'est aussi pour nous. Toi, tu veux te dédouaner complètement de la chose. C'est rachou. Chag HaAsif. Kufat Hashana. Mazet Kufat Hashana. Besof Hashana. Mazet Sof Hashana.
Non,
c'est Rosh Hashanah, c'est la fin de l'année. C'est la fin de l'année agricole. Et donc on te dit Chag HaAsif Tkufat Hashanah. Donc ça veut dire qu'il y a ici quelque chose qui est du domaine du Chidouche. C'est que la Parnassa, c'est lié à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que l'abondance matérielle, c'est ce qui te lie à Dieu.
Attends, où est-ce que tu vois Dieu?
Où est-ce qu'on voit ça? Je vous rappelle où est-ce que je vois Dieu. C'est Dieu qui parle, là.
Mais il a dit...
Toute la liste des choses, c'est Dieu qui nous a dit. Il a dit de faire une chag à Asif, Tkufat Hashanah. Asif, c'est à Taosef et à Tvoua. Donc, le fait d'avoir de l'abondance matérielle, c'est directement relié à Ribono Shel Olam. Shalosh Pa'amim, hein?
C'est pour ça qu'on prie, pour la Parnassa.
Alors là, on ne fait pas référence à Rosh Hashanah, on fait référence à Sukkot. Il se trouve
que c'est 15 jours après.
Ça, il n'y a rien à mettre. Mais. C'est pas. Parce qu'à Rosh Hashanah, quand tu fais la tefila pour la Parnassa, c'est pour l'année qui va s'ouvrir. C'est-à-dire que tu pries pour les pluies qui vont commencer à partir de Sukkot, qui vont faire pousser la nouvelle récolte pour que. Jusqu'à ce code prochain, tu puisses avoir une bonne récolte. Donc, c'est pas pour Rosh Hashanah pour dans deux semaines.
Non, mais à Rosh Hashanah, a priori, ils ont déjà fini les récoltes.
Ils ont déjà fini les récoltes ou ils vont commencer les récoltes? Ça dépend de quoi?
Ben,
ça dépend de. Non, ça dépend de quel fruit.
Oui. Hein? C'est vrai.
Il y a plein de fruits, les figues particulièrement et les grenades. Tu peux pas les ramener avant Rosh Hashanah, elles sont pas prêtes.
Désolé.
Non, les olives, tu ne peux pas les ramener non plus à Sukkot.
Ouais.
C'est jusqu'à Hanouka, les olives.
Ouais.
Ok? Shalosh pa'amim bashana yira'e kol zechurecha et pene adon Hashem Elohe Israël. Iné, verset fondamental, Rabotai, dans la émouna du peuple juif. Shalosh pa'amim bashana, trois fois par an, on doit aller voir Dieu. C'est fou ça. Il y avait marqué il n'y a pas longtemps, Lo yirani à Adam Vachai. Dieu, Moshe lui a demandé, je peux te voir? Elle dit non. Et là, Yirael Pena Adon Hashem? Ah, oui, parce que Moshe il a demandé de voir l'essence. Et lui, il dit, tu vas pas avoir l'essence, tu vas avoir ma panime. Ben oui, parce que Dieu, il avait étudié Emmanuel Kant, et il sait très bien qu'on ne peut pas atteindre le naomen, mais on ne peut atteindre que le phénomène. Ou alors en français, on ne peut pas atteindre ce qui est l'essence, mais on ne peut atteindre que le dévoilement, la ofa. Et ça, c'est la panime. C'est vrai que la panime, elle dévoile le pnim, mais comme il y a quand même un écran.
C'est comme Mirachov qu'il a...
Quoi ?
Que Dieu a montré finalement ?
Si, il a montré à Moshe à Horaï. Oui. Mais il te dit, il y a un autre moyen aussi, il faut que tu viennes me voir. Panim, batal, shalosh pamim bashana. Et en fait, dans l'année juive, il y a six moments qui sont sept de rencontres avec Dieu. Trois derech apanim, Pesach, Shavuot, Sukkot, shalosh pamim bashana, yireh kol zechoreh penei Adon Hashem. Trois qui sont lifnai velifnim, à l'intérieur de l'intérieur, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Shmini Atzeret, on va dans l'intérieur de l'intérieur. Yom Kippour, c'est une évidence. Kodesh Kodeshim, le Kohen Gadol. Rosh Hashanah, on sonne le shofar. Et nous dit la Gemara, dans la mesure où le shofar, il est là pour rappeler la notion de Zikaron, c'est ce qui fait appel au plus profond de toi, donc c'est comme si tu rentrais aussi à l'intérieur de l'intérieur. Et Shmini Atzeret, c'est Chag HaTorah, la Torah Yekarahi Mipeninim, Mikohen Gadol, Shenishnas, Lifnai, Velifnai. En d'autres termes, c'est une autre dimension dans ces trois fêtes-là, où on rentre à l'intérieur de l'intérieur.
Comment Shmini Atzeret, c'est la fête de la Torah ?
Shmini Atzeret, c'est Simchat Torah.
Je sais pas, j'ai
une petite question.
Hein,
tu dis, non, c'est parce que de nos jours, on fait.
Peut-être un anachronisme.
De nos jours, on lit la Torah en un an.
Mais avant, ce n'était pas le cas.
Oui.
Donc tu dis, peut-être qu'il y a ici un anachronisme intéressant.
Peut-être.
Peut-être. Et, attends, bon, est-ce que tu crois que je ne m'attendais pas à ta remarque ?
Je crois.
Et c'est pour ça que j'ai quelque chose dans ma poche.
Ah. Oh là là !
J'ai un joker. Le joker s'appelle Rabbeinu Yitzhak Abravanel. Rabbeinu Yitzhak Abravanel nous dit « Ukva ra'iti katou » Le seul problème, c'est qu'il ne te dit pas « où ». « Ukva ra'iti katou » que le fait que nous, on fasse Simchat Torah, donc à l'époque d'Abravanel, on faisait déjà Simchat Torah, n'a rien à voir avec le fait qu'on termine la Torah. On faisait déjà Simchat Torah à Shmini Atzeret avant qu'on termine la Torah. Ma en souvenir de Mahamad Akel. De ce qu'on appelle la mitzvah du Akel. Une fois tous les 7 ans, le roi, il disait le Sefer Torah à Sukkot. Depuis la destruction du Beth Amidash, nous dit Rabbeinu Yitzhak Abravanel, qu'on a continué à Shmini Atzeret de faire tous les ans un Zecher le Mahamad Akel. Et ils disent Mamshich Adayom, et maintenant, comme en plus on a changé la façon de lire, ça tombe très bien. On a fait exprès que ça tombe très bien. Ça, donc c'est déjà à l'origine la dimension de la Torah. Et il y a une septième dimension qui est Purim, chez Derech Ha'achor.
Derech
par l'arrière. Parce qu'il y a voilé, parce que Aman, Mordechai. Ça va? Et ça, je ne l'ai pas dit hier, parce que déjà que hier, ça a fait... Hein, si on avait commencé, peut-être que ça en fera...
Voilà.
Il ne faut pas trop ébranler la émouna des gens. Oui,
tu peux m'expliquer pourquoi dans la traduction d'Ichrecha, « Être peigné à Don » on emploie le mot « Adon » au lieu de mettre « Être peigné Elohim » Pourquoi on emploie le mot « Adon »
Parce que c'est, tu viens voir le patron. « Adon », ça veut dire le patron.
Ah, c'est le patron.
Ah oui, « Adon » Adon Olam, Asher Malach. Qui orige Goï. Alors, Shnia, donc ça veut dire aussi que s'il faut venir le voir trois fois, c'est-à-dire que voir Dieu, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais quand tu viens en Beth Amikdash, à Sukkot, à Shavuot, à Pessah, tu vois Dieu. Je ne sais pas comment, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Il y a des écrits qui sont restés.
Écrire, tu veux écrire une Chavaya ?
Non, mais
Non, tu peux pas expliquer un ressenti.
Pas expliquer, on peut.
Donc tu peux pas l'expliquer, tu peux pas l'imaginer non plus.
Ce qui est étonnant, c'est que personne n'a écrit sur ce qui.
Voilà, c'est ça.
Ce qui était ressenti. Voilà.
Je ne comprends pas ce que vous dites.
Mais si,
mais c'est pas vrai.
Récit.
Mais si.
Voilà, c'est ça.
Mais je ne suis pas d'accord avec vous.
Non, on n'écoutait pas.
Ah, c'est autre chose. Non. Par exemple, Jérémie, il a écrit. Il a dit Raïti et Hachem Yoshev al Kise Rav Venissa.
Non, mais lui, c'est la névoie, il a vu dans le.
Mais. Il a écrit. T'as compris quelque chose de ce qu'il a dit? Non.
Non, mais il faudrait à quelqu'un.
Tu ne peux pas écrire une Chavaya. C'est pas possible. C'est pas possible.
Bah, c'est ce qu'ils font les poètes.
Et... Absolument pas.
Ils
absolument
ils
pas.
Ils décrivent leur
ils décrivent
avec des images.
Et c'est
ça. Non, c'est pas ça, mais au moins ça nous donne.
Excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi sans vouloir être trop terre à terre. Justement, ça donne. C'est, tu vois, tu utilises des mots qui vont justement pas avec la réalité. Ils décrivent un parfum. Tu peux pas décrire un parfum.
Si, on peut.
Sécha, excuse-moi, tous les mots que tu vas utiliser. Ils peuvent rivaliser avec le régal, le moment où tu as.
D'accord, mais c'est au moins quelque chose.
Ah, il y a fait. Deux secondes. Tu peux lui expliquer à l'aveugle qu'est-ce qu'il y a dans le décor. Mais c'est pas la même chose que celui qui l'a vu. Tu peux expliquer. Attends, excusez-moi, je vais exprès aller dans le plus extrême. Il y a plein d'auteurs de la littérature romantique qui ont écrit les ébats amoureux et sentimentaux. Que ce soit Madame de Bovary, que ce soit ce que tu veux. C'est pas pareil que quand un homme et une femme ils s'unissent, tu peux pas décrire ça.
On est d'accord.
Là, c'est où ?
Non, on est d'accord, mais au moins ça donne quand même quelque chose. Ça rapproche, ça donne quelque chose, c'est mieux que rien.
Ah, donc il y a plein de gens qui ont écrit des choses, mais c'est osé.
Hein ?
Il y a plein de gens qui ont écrit.
Ah, ils ont écrit ?
Mais voilà, il y a Zohar ou Malé, Bézé, Vétorat, Kabbalah, Bichlal, elle est plein de ça. Mais c'est pas ça. C'est essayer d'expliquer toute la Kabbalah, je te l'ai déjà dit, toute la Kabbalah, c'est traduire de manière intellectuelle ce que les prophètes ressentaient.
Non, là on ne parle pas de manière du Mais Sérel.
C'est pas Sérel. Non, on ne parle pas du cœur. L'onaron. Non, on ne parle pas du cœur. On parle de ce que tu vis.
Oui, ce qu'on vit.
C'est pas le cœur. Mais.
Tu ne sens pas des sensations.
C'est un événement que tu vis.
Oui.
Tu le ressens dans ton cœur, mais ce n'est pas que ça.
Non.
C'est ton être entier qui a vécu une expérience.
Je suis d'accord.
Donc, une fois que tu n'as plus l'expérience, il y a des gens qui essayent de traduire l'expérience avec des mots. Ça sera toujours très loin de la réalité. En malasot.
C'est sûr. Il y a fait. Comme une photo et la personne.
Il y a fait. Bah, c'est tout.
On est d'accord.
Donc, il y a des gens qui ont écrit. Et ils n'ont essayé que de décrire des choses qu'ils ne comprenaient pas.
Ouais, c'est tellement loin d'une forme de réalité.
C'est ça.
Ah bah évidemment.
On n'entend pas tellement parler de tout ça.
Ça existe.
Je peux te mettre des mots sur ce que c'est la rencontre avec Ribono Shel Olam ? Non. Non. C'est pour ça que Manitou il disait, si tu veux savoir ce que c'est la prophétie, d'abord sache qu'il n'y a pas aujourd'hui. C'est-à-dire ne crois pas qu'un rabbin, aussi grand qu'il soit, ça a un lien quelconque avec un prophète. Ça n'a rien à voir. Parce que quelqu'un à qui Dieu parle, nous dit le Tanakh, venez far le ish acher. C'est pas le même homme. Dieu t'a parlé. Par exemple. Par exemple. Donc c'est pas la même chose.
Donc on est tous un peu idolâtres dans notre service.
Ah bah oui. Aujourd'hui, alors idolâtre.
Ben si.
Non, tu l'as peut-être poussé un peu. Mais effectivement, on n'a pas le lien véritable avec Akadosh Baruch Hu, mais ça c'est une réalité. C'est terrible, mais c'est vrai.
Donc ce qu'on peut ressentir, ça peut être faux.
Voilà.
Je n'ai pas dit qu'on n'a pas de lien, j'ai dit qu'on n'a pas le lien véritable avec Akadosh Baruch Hu. C'est nachon. C'est quoi ? Je vous apprends rien. On n'a pas été au Beit HaMikdash. On n'a pas ressenti la Shrina.
Oui, mais on a l'impression que c'est la bataille de personne
sur le temple
et de.
Comment ça ?
Non, c'est vrai. C'est...
Moi, je vous trouve quand même. Moi, je vous trouve quand même sacrément pressé.
J'ai l'impression que moi, je n'ai pas du tout cette
expression. Moi, je vous trouve quand même sacrément pressé dans la vie.
Ah non, pas pressé.
Ah si.
Non.
Parce que tu dis, on n'a pas l'impression que là maintenant, ils veulent construire le Beit HaMikdash.
Non, vraiment pas.
Nahon, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Je dis simplement que ça a pris 2000 ans pour qu'on ait l'impression qu'il fallait rentrer à la maison. Tu veux que juste après on construise le Beit HaMikdash ? Moi j'ai envie que quand on construit, on sait pourquoi on construit. Ça prend du temps.
Que ça soit un objectif, ça donne pas cette impression.
Bah, tu, pourquoi ? La faute à qui ?
C'est pas au mouvement.
La faute à qui ?
On est dans une forme de monde religieux.
La faute à qui ?
Non, pas
ça. La faute à qui ?
Non, c'est vrai.
La faute à qui ?
La
faute au rabbin.
À qui ?
Au rabbin. C'est vrai, les Romains ils ont détruit le Beit HaMikdash, quelque part c'est aussi sa faute. Mais la faute au rabbin, et moi le premier, et tout le monde. On parle pas de la reconstruction du Beit HaMikdash, on dit pas à quel point notre service divin il veut rien dire aujourd'hui.
Alors,
pourquoi on le dit pas assez? Bon, moi j'ai fait des séries de vidéos sur qu'est-ce que c'est le Beit HaMikdash, j'ai reconstruit le Beit HaMikdash.
Oui, mais c'est comme si c'était quelque chose de totalement dans le passé et pas dans l'avenir.
Nahon. Et c'est la faute. Ben oui.
Donc on prie que les tzadikim soient.
Les tzadikim, c'est ce qu'on a dit Shabbat. Mais c'est bidou, vous avez.
Non, des leaders, pas des tzadikim. Non, oui.
Il y a des sujets, si tu veux, il y a des sujets. Il y a des sujets qui sont tellement, tellement pas assez étudiés. Dans le monde religieux, je te parle. Le Beit HaMikdash, c'est un sujet que personne ne connaît dans le monde des chiottes. Ça ne les intéresse pas. Que quand tu vas à la yeshiva, et que tu étudies Baba Kama, très important d'étudier Baba Kama. Mais en fait, on n'étudie pas à la Khalema Azé, c'est-à-dire qu'on n'étudie pas pour essayer de comprendre aujourd'hui, si jamais je suis rentré dans ta voiture, avec ma voiture, qu'est-ce qui va se passer. Non, on essaye de se recréer le monde des Amoreïs, au lieu de se projeter pour construire demain.
Mais c'est. Oui.
Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est mieux de vivre dans le passé. Il y a des gens, pas assez nombreux, mais ça commence à venir, qui veulent non plus se nourrir du passé, mais qui veulent se nourrir de l'avenir.
C'est
quand ils se lèvent à Hatzot pour prier.
Par exemple, il y a eux. Et par exemple, tu vois des gens comme le Rav Israël Ariel, le fondateur du Machon HaMikdash, qui a donné toute sa vie pour le Beit HaMikdash. Toute sa vie, il l'a donné au Beit HaMikdash. Mamash. Ça a été au Machon HaMikdash. Tu veux qu'on fasse des tioulim à Givat HaTachmoshet? Bon, ma prochaine tioul, Givat HaTachmoshet, Machon HaMikdash. Ça donne? Ça y est, c'est réglé?
Ouais.
C'est réglé. Non, c'est en plus, bon, c'est pas au même endroit, mais c'est pas grave. Ça marche. Machon HaMikdash, je te fais pas de spoiler, mais il y a un petit monsieur qui s'appelle Srouli, Israël, qui a 20 ans et qui est parachutiste. Et en 1967, c'est la guerre des six jours. Et il est parachuté là-bas. Et il va, enfin, parachuté. Et il va faire participer à la libération de Jérusalem. Et il reçoit l'ordre du commandant en chef, Motagour, une fois que ça y est, Arabaï Beyadeno. Il reçoit l'ordre de garder l'entrée du Dôme Doré. Et il est là pendant quelques heures avec son arme et garde l'entrée. Il se dit, c'est quand même incroyable, je suis le premier juif qui est ici depuis la destruction du Beit HaMikdash. Là, c'est l'entrée du Kohen Gadol pour entrer dans le Kodesh HaKodeshim. Et il dit, mais j'y connais rien, moi, ça. Et pourtant, je suis un jeune juif religieux. Alors, je laisse imaginer les autres. Et donc, il a pris sur lui, après son service militaire, que toute sa vie, ce serait le Beit HaMikdash. Et donc, de Israël, il devient le Rav Israël Ariel, et il va créer le Machon HaMikdash. Et il recrée tous les ustensiles du Beit HaMikdash al-Pi al-Kha pour qu'il soit prêt à l'emploi au Beit HaMikdash. Par exemple. C'est un exemple. Tout ça pour dire que la rencontre avec Akadosh Baruch Hu ne détruit pas. C'est-à-dire, si on doit le voir trois fois par an, c'est qu'on n'est pas mort la première fois. Donc ça vaut le coup de voir Dieu. Et puisqu'on t'a parlé de Pessah, de Shavuot et de Sukkot, et ben on te dit Ki orish goyim mipanecha veichavti et gevulecha velo yachmod ish et arzecha be'alotecha leiraot et penei Hashem Elohecha shalosh pa'amim bashana. Lorsque tu remplis ton rôle et tu vas au Beit HaMikdash, et donc tu montres à tout le monde que tu es là parce que Dieu il t'a demandé, ben les goyim ils te respectent pour ça. Mais quand tu dis au monde que tu es là parce que Ben, les goyim, ils ne te respectent pas pour ça. Pas chute. L'antishrat al-chametz dam zifri. Ça, c'est en rapport avec quoi?
L'agneau.
Ouais, mais avec quelle fête?
Tout sauf le Shabbat.
Bah, avec ça. L'ot isbach al-chametz.
Non, mais c'était ça, c'était.
Dam zifri.
Toute l'année, on n'avait pas le rôle de chametz.
Non, en tant que corban. Mais tu peux après manger ton, ton hamburger que tu as fait en corban, tu peux le mettre dans une pita. Donc là, on te dit l'ot ishrat al-chametz dam zifri. Velo yalin la boker zeva chag pesach. Donc là, c'est clair que ça parle de pesach. Réchit, bikoué admatecha, ta vie bet Hashem Elohecha. Ça, ça parle de quoi? Bah, de Chag Shavuot.
Les prémices, c'est ça.
Oui, donc Shavuot. Et donc, l'otel Hashem Gedi bechalev imo. Ça parle de quoi? Si le premier verset, il parle de Pessah. Le deuxième, de Shavuot.
Non, il parle de Sukkot.
Donc, il parle de Sukkot. Donc l'autre la chèvre qui dit Bechelev Imo, c'est en rapport avec Sukkot.
C'est pas les égolatries
avec les... T'avais dit un peu comme ça. J'avais déjà dit, ouais. Re, Joker Abrabanel, Rabbeinu Yitzhak Abrabanel nous redit que Yesh Ayaminag et c'est l'Ovde Avodazara que à l'époque de l'automne, qui est à l'époque où on va tondre, on va faire la Hamlata des... Comment on dit la Hamlata? Des brebis du cheptel, eh bien, ils avaient le minag de prendre un gdi et de le faire revenir, de le manger dans du chalav. Gdi be chalav. C'était le minag de Ovdei Avodah Zara. Et nous dit Avraham Banel, Vegam be malchut Angleterre, mamshichim adayom. Je sais pas, en Angleterre, il y a 450 ans, peut-être qu'ils faisaient ça. Et donc, il te dit, nous, on fait pas ça.
Moi, je vois des trucs bizarres.
Ouais, voilà. L'autre Vachel Gedi Bechelevi. C'est-à-dire qui est un des versets qui sert de base aux lois de la cacheroute. Mais ça, on développera certainement la prochaine fois.
Il y a pas un autre verset.
Il y en a plein d'autres.